Au risque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, nous continuons avec le Père José Willibald Michaud à Maritsou la lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous en sommes au chapitre 7 et vous vous souvenez sans doute que dans l'émission précédente, le Père José avait proposé pour ce chapitre difficile trois questions finalement. Où est-il ce Jésus? Qui est-il et d'où est-il? Alors, nous avons traité la dernière fois la question « Où est-il ? » Il est insaisissable. Il y a quelque chose de nomade chez lui, profondément non réductible et insaisissable, et il nous invite à faire pareil, à être continuellement en mouvement. Alors, Père José, au fond, qui est-il ? Qui est ce Jésus qui est vraiment une énigme, qui est une question? Et ce qui est très intéressant, Père José, c'est finalement les polémiques là. On entend une sorte de micro-trottoir. Certains disent « c'est un homme de bien » et d'autres disent « non, c'est un séducteur ». Donc c'est quelqu'un qui trompe la foule, semble-t-il. Et ça, ce qui veut dire qu'il avait probablement une personnalité absolument fascinante. Mais qui est cet homme, homme de bien ou séducteur?
La personnalité de Jésus devait être impressionnante. Et il y avait une sorte de magnétisme qui émanait de lui. Mais alors, lorsque on cherche à le rejoindre, Jésus a cette phrase énigmatique, « Là où je suis », donc cette question que vous posez, mais « je suis », vous ne pouvez venir. Alors dans « je suis », il y a évidemment le jeu de mots avec le nom sacré et imprononçable de Yahweh,
au moment du buisson ardent.
Au moment du buisson ardent. Et l'allusion à un chemin qu'il est chemin, et où nous ne pouvons encore aller. Donc, là où je suis, vous ne pouvez venir. C'est tout le thème, d'ailleurs, de ce grand et magnifique discours d'après la scène, auquel nous allons arriver un jour. Tout ce discours de 5 chapitres, et celui où Jésus, presque désespérément, essaye de préparer ses disciples à cet arrachement nécessaire qui lui permettra d'aller jusqu'au bout de lui-même et de faire place à l'Esprit. C'est le thème du discours, ça. Où vas-tu? Pourquoi nous pouvons-nous te suivre? Où je vais, vous ne pouvez venir, mais il faut que je m'en aille pour que ce que je suis soit révélé. Et ce que je suis, c'est l'Esprit.
Alors, il y a aussi le fait que Jésus, comme dans d'autres évangiles d'ailleurs, parle par énigme. Pour les auditeurs ordinaires, oui. Ce sont des paroles mystérieuses, oui. Et qui, au fond, nous mettent en mouvement sans nous donner de réponse, littéralement.
Mais ça, de fait, hein, Jésus parle en énigme ou en parabole, et il semble dire lui-même qu'il est nécessaire qu'il parle en parabole pour nous obliger à dépasser un premier entendement trop court ou trop immédiat et nous ouvrir à un entendement plus souple, plus fluide, de type poétique. Il faut entrer dans la poésie de Dieu pour comprendre sa vérité. Mais la poésie de Dieu, Jésus ne pouvait pas parler un langage trop immédiat.
C'est donc la poésie de Dieu, Père José.
Je crois qu'il n'est pas possible d'entrer dans le chemin de la foi sans accepter de devenir un peu poète, de redevenir poète un peu comme un enfant. l'enfant a un sens de la poésie que nous perdons malheureusement avec l'âge de raison.
Et en même temps, quand Jésus raconte des paraboles, ce sont des choses extrêmement simples. C'est un semeur, c'est une femme qui a perdu une perle, c'est un père qui avait deux fils, c'est la parabole du grain de moutarde. Ce sont des choses incroyablement simples, mais qu'il faut pouvoir interpréter au niveau symbolique.
Mais ces choses simples nous invitent aussi à revenir ou à entrer dans une expérience. Ce n'est pas un raisonnement, c'est une expérience. Et ça, c'est fondamental. Oser s'engager dans l'écoute et dans l'entendement, ne pas rester observateur ou analyste.
C'est vraiment une caractéristique de cet enseignant qu'est Jésus, qui incite à l'expérience, qui ne déverse pas un savoir,
non,
mais qui invite à la connaissance.
À la connaissance. Absolument. Écouter, c'est progresser dans la naissance. C'est continuer à naître à quelque chose de neuf, d'autre.
Donc toute notre vie est une naissance.
Nous n'avons jamais fini de naître.
C'est peut-être l'occasion déjà de faire une petite pause musicale. Je vous propose Schubert, un quatuor à cordes, le quatuor à cordes Rosamonde. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Jean au chapitre 7 et nous allons aborder la dernière question que le Père José souhaite poser à ce texte difficile. Ce Jésus, d'où est-il ? Alors je vais vous lire la fin de ce chapitre à partir du verset 37. Il est intéressant dans cet extrait de souligner la posture de Jésus et puis bien entendu aussi toutes les discussions et l'apparition d'un certain nombre de personnages comme les gardes et comme Nicodème. À partir du verset 37, je vous le lis. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient « Vraiment, voici le prophète ». D'autres disaient « Le Christ, c'est lui ». Mais d'autres encore disaient « Le Christ, pourrait-il venir de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire ?» C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent « Auriez-vous donc été abusé, vous aussi ?» Parmi les notables ou parmi les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui ? Il a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, des gens maudits. Mais l'un des pharisiens, ce Nicodème qui naguère était allé trouver Jésus, dit « Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait ?» Ils répliquèrent « Serais-tu de Galilée toi aussi ? Cherche bien ! Et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. »
Oui, donc, c'est « D'où est-il ?» Donc, après la question « Où est-il ? Qui est-il ? » Maintenant, « D'où vient son savoir ?» Tout à coup, « D'où est-il ?» L'origine de Jésus. C'est une origine complexe. Il y a son origine immédiate, historique, physique, un petit Galiléen de Nazareth, et il y a l'origine radicale, profonde de Jésus, qui est l'émanation d'une parole d'au-delà de lui-même. Jésus qui vient d'un au-delà mystérieux et qui révèle progressivement la transcendance de sa parole et de son origine. On comprend que les auditeurs aient été troublés, intrigués et divisés par cette question. Est-ce que nous allons l'enfermer dans son origine terrestre et méprisable, un obscur Galiléen, ou est-ce que nous allons reconnaître en lui quelqu'un qui vient d'un au-delà de lui-même, un envoyé. Alors, ce qui est intéressant ici, donc, c'est que la foule se divise donc, dans ses diverses interprétations, mais c'est la discussion entre les grands prêtres qui oppose le savoir, le pseudo-savoir des pharisiens à l'aveuglement de cette foule maudite. Et là, un pharisien, Nicodème, vient rouvrir la question en disant « Mais est-ce que nous l'avons écouté, entendu ? Et est-ce que nous savons qui il est et ce qu'il a fait ?»
Il se réclame d'ailleurs de la loi. Il dit « Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans l'avoir ce qu'il a fait ?»
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il leur oppose la loi dont il se réclame.
C'est un homme d'une grande honnêteté.
Nicodème est un homme très sympathique dans l'Évangile. Discret, prudent, mais ouvert.
Et puis, il y a aussi la réaction des gardes. On peut imaginer que ce sont des hommes un peu frustres, sans doute. Mais, et ils disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ».
C'est ça, et c'est l'évocation de cette parole qui fait irruption au milieu d'eux. Cette parole qui transgresse toutes les limites, qui nous oblige à un perpétuel dépassement de notre entendement. L'appel à une écoute en profondeur, c'est là le problème.
Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est le retour d'un motif que nous avons déjà entendu au tout début. Jésus, debout, se mit à proclamer « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. »
Oui.
Et puis, il y a la citation de l'Écriture « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » C'est le retour d'un motif que nous avons déjà entendu, la soif.
La soif, l'eau vive, l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la dernière phrase. L'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Glorifié, c'est-à-dire manifesté dans l'évidence de sa vérité. La gloire n'est pas du tout un titre honorifique. La gloire, c'est la manifestation lumineuse. Et donc, ici, il y a l'opposition entre l'immédiat et l'esprit. Au fond, dans ce verset-là, le thème général du quatrième évangile est à nouveau rappelé. Jésus est la genèse de l'esprit. Jésus va amener ou essayer d'amener ses apôtres à le quitter dans l'immédiateté de sa présence pour s'ouvrir à sa nouvelle présence. C'est le passage d'une relation d'un immédiat terrestre à une relation définitive. Et saint Paul dira « Si jamais j'ai connu Jésus selon la chair, maintenant je ne connais plus que Jésus esprit. » Il met un tiret entre Jésus et esprit. La nouvelle présence de Jésus, c'est l'esprit. Nous ne sommes pas habitués à mêler Jésus et l'esprit, et pourtant c'est fondamental. Nous ne pouvons plus le retrouver que comme Jésus-esprit.
Le Jésus insaisissable, c'est bien ça?
Tout à fait. Mais l'esprit, c'est celui qui va où il veut, et nous ne savons ni d'où il vient, ni d'où il va. Mais il nous entraîne.
Est-ce que nous avons ici l'image de cet insaisissable qui est toujours en mouvement? Un petit peu comme si on opposait un Dieu qui agit continuellement, qui est tout le temps dans l'action, dont l'être est vraiment le mouvement, d'une part, et d'autre part, ce système qui est représenté ici par les autorités, les pharisiens, la loi, et c'est finalement, en face, il y a un Dieu qui agit continuellement, et par ailleurs, un système qui se raidit.
Je crois que c'est la vieille opposition, l'opposition, je dirais, définitive entre un Dieu révélé, mais immobile ou immobilisé et statifié à un Dieu qui est sans cesse surgissement, nouveauté, devenir, mouvement, vie. Dieu est vie. Alors que la loi est morte.
Alors il y a une chose qui est très intéressante au tout début du chapitre 7, Père José. Quand ses frères lui suggèrent de se manifester au monde, il répond une chose intéressante. « Mon temps n'est pas encore venu, nous en avons déjà parlé, votre temps à vous est toujours favorable. » Le temps à vous, ben oui, vous qui êtes dans la logique de l'institution et la logique du monde. Il continue, « Le monde ne peut pas vous haïr, tandis que moi, il me hait, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. » Là, il y a aussi quelque chose d'important. Le monde ne peut que haïr la vie.
Absolument, la vie. Donc, le monde haït ce qui le menace, le conteste, secoue ses sécurités. Or, la vie bouscule sans cesse les limites que nous lui opposons. Et le monde ne peut supporter cette impatience de la vie. Le monde ne peut supporter qu'on remette sans cesse en question les certitudes auxquelles il s'accroche. C'est ça que le monde haït.
C'est tout à fait représenté dans cette phrase. Votre temps à vous est toujours favorable parce que cadré et attendu.
Attendu et immobilisé. Nous immobilisons sans cesse les choses pour nous y accrocher. Or, Dieu est mouvement. Dieu est mouvement, il est souffle, il est esprit et il est vie. Il est esprit et vie.
Et vous avez une belle expression, Père José. Vous avez parlé il y a quelques secondes de l'impatience de la vie. J'ajouterais à côté de cette impatience la passion et le désir. Nous sommes bien dans l'évangile du désir.
Ah, tout à fait. Nous sommes dans le cheminement du désir qui nous déracine. Le désir nous déracine de notre immobilité.
Et finalement, c'est comme cela que vous donnez sens à tout ce chapitre que vous avez présenté un petit peu comme un chapitre hésitant.
Oui.
Mais c'est un chapitre hésitant parce que justement, cette vie est continuellement en mouvement et renouvellement.
Tout à fait. Et nous devons accepter d'être dans l'inconfort de ce cheminement hésitant, mais pour aboutir finalement à ce dépassement final qui nous ouvre à la vérité.
Ce dépassement et puis cette immense humanité, nous avons terminé le chapitre 7, Père José, et pour la prochaine émission, nous allons entrer dans la merveilleuse scène entre Jésus et la femme adultère, qui est certainement un des tout grands sommets de l'Évangile. C'est aussi une manière de nous étonner et de nous bousculer, d'ailleurs, merveilleusement. Merci Père José, merci à vous chers auditeurs et je vous laisse de nouveau avec le quatuor Rosamonde de Schubert. À très bientôt. Thank you.
Thank you.